Les nuits de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique.
En 2010, du jour au lendemain, accueillait Édouard Glissant. L'écrivain martiniquais publié 10 mai, sous-titré « Mémoire de la traite négrière, de l'esclavage et de leurs abolitions » et « La terre, le feu, l'eau et les vents », une anthologie de la poésie du tout-monde. Ce concept, cette idée, cet horizon du tout-monde, cher à Édouard Glissant, Patrick Chamoiseau le présente ainsi. Pendant longtemps, nous avons vécu avec des absolus. Nous, Antillais, du fait que l'on soit le produit d'une histoire éclatée, nous sommes déjà composites. Le pluriel est déjà présent. À partir de cette nouvelle complexité, Édouard Glissant s'est rendu compte que tous les peuples, les civilisations et les individus se déplacent et se rencontrent. Il y a véritablement un processus de mise en relation généralisé. L'idée est de savoir comment penser son identité lorsque l'on est dans un flux relationnel permanent. La notion de tout monde nous indique le nouvel espace à partir duquel et dans lequel nous devons vivre. C'est la totalité du monde. Entendre Édouard Glissant au micro d'Alain Weinstein, entendre le poète du chaos du monde, entendre dans cette voix la pensée du tremblement qui nous mène au tout monde.
Alain Weinstein, bonsoir. Du jour au lendemain, avec Édouard Glissant, qui publie deux livres aux éditions Galade, La terre, le feu, l'eau et les vents, une anthologie de la poésie du tout monde, et 10 mai, Mémoire de la traite négrière de l'esclavage et de leurs abolitions. L'idée du monde n'est vivante que de s'autoriser des imaginaires du monde où s'annonce que mon lieu, inlassablement conjoint à d'autres, et en quoi sans bouger il s'aventure, et comment il m'emporte dans ce mouvement immobile. Vous avez publié de nombreux livres, Édouard Glissant. On le sait bien ici, car ce n'est pas la première fois que vous venez à ce micro. Et on sait que ce n'est pas toujours évident de les classer, ces livres, comme on a l'habitude de faire, en poèmes, romans, théâtre ou essais, parce qu'ils sont tous un peu tout ça à la fois. Chez vous, le poème, par exemple, emprunte à la prose. Et quant au roman, on peut dire qu'il est poésie. Mais j'ai l'impression que si je vous posais la question, vous me diriez que c'est tout de même le poète qui, pour vous, est en avant. Poète avant tout, un poète qui ne se contente pas d'écrire des poèmes, qui réfléchit aussi sur l'écriture, sur son pouvoir, et inévitablement sur ses limites. Ce que je voudrais établir d'abord, avez-vous écrit, c'est la quasi-nécessité d'un chaos d'écriture dans le temps où l'être est tout chaos.
Oui, dans la modernité, dans ce qu'on appelle la modernité, et que j'appelle l'ouverture imprévisible, inattendue, des cultures, du monde les unes sur les autres. Par exemple, quand je réfléchis au passage de l'oralité à l'écriture, par exemple dans les civilisations, dans les cultures occidentales, et que je me sens un peu proche de cela, parce que c'est un peu le même trajet, je constate tout de suite que s'il s'agit de la Chine, je ne connais pas ce circuit. Comment ça s'est passé? Comment ça s'est fait? S'il s'agit de l'Inde, je ne connais pas ce circuit. Et pourtant, nous apprenons de plus en plus à lire les poètes, les philosophes ou les romanciers chinois ou indiens ou japonais ou mayas ou aztèques, etc. Mais il nous manque quelque chose. Il nous manque la relation. Il nous manque la relation entre tout cela. Et cette relation, nous ne pouvons l'aborder que sous l'aspect du chaos. Nous ne pouvons pas l'aborder avec des mesures, un ordre que nous aurions appris dans notre propre culture, dans nos propres cultures. Il faut l'aborder avec la démesure du monde. Le monde est démesuré et les sociétés humaines sont démesurées et nous ne pouvons pas imposer de l'ordre rhétorique à tout cela. Mmh. Et par conséquent, il faut passer par là, même si nous avons au fond de nous-mêmes toujours un désir nostalgique d'un ordre qui viendrait nous rassurer. Mais il faut passer par le désordre du monde.
Mmh. Mais si la relation à beau jour était rétablie, alors à ce moment-là, on ne parlerait plus de chaos, mais de sens.
On ne parlerait plus de chaos, c'est-à-dire que la démesure pourrait devenir une mesure. C'est ce qui est un passage que les humanités pourraient comprendre.
Est-ce qu'il peut y avoir une harmonie dans la démesure?
Absolument, absolument. Il y a une harmonie. Vous savez, prenons les éléments qui sont les éléments qui sont la matière même, non seulement du monde, mais aussi de nos imaginaires, l'air, la terre, le feu, les vents. Si nous réfléchissons à cela, nous voyons très bien que ces éléments peuvent être des facteurs de déséquilibre et même de ruine. Et quand la terre se renouvelle, qu'elle se refait une jeunesse, les humanités peuvent en souffrir. Tremblements de terre, volcans, tsunamis, ouragans, cyclones, etc. Mais ces mêmes éléments peuvent être aussi des éléments de revitalisation, de regain. Et je pense que c'est cela que les humanités ont tendance à oublier. Nous avons tellement tendance à disséquer les éléments, à les réduire à leurs particules élémentaires, que nous oublions que c'est les mêmes éléments ont une force, une puissance qui nous meut et qui nous soutient. Et il y a des peuples qui... Nous apprenons aujourd'hui qu'il y a des peuples qui sont plus près de cette vérité que d'autres. Ce n'est ni un avantage, ni un bénéfice, ni ni une supériorité. C'est tout simplement que les imaginaires de certains peuples sont plus près de ce qu'on appellerait un état de nature. Et l'état de nature qu'on a réputé inférieur, on apprend aujourd'hui qu'il ne l'est pas tellement.
Alors, on est dans le chaos, en plein désordre, mais est-ce que les mots, l'usage des mots, permet de mettre un peu d'ordre dans tout ça, d'y voir plus clair?
Oui, parce que il y a... Qu'est-ce que c'est la poésie? C'est... D'abord, je suis tout à fait... c'est mon opinion. D'abord, c'est un imaginaire du monde. C'est être sensible à ce que je viens de définir, une espèce de chaleur du monde à laquelle il faut être sensible. Mais c'est aussi la poésie, le moment où cette chaleur et cet imaginaire se traduisent et s'expriment par des mots, par un langage. Un langage qui n'est... Dans une langue donnée, on peut avoir plusieurs langages. On peut avoir un langage de la retenue, un langage de l'effusion, un langage de l'extrême, un langage de l'intime. Mais ce langage, il me semble que le moment est venu de le comparer d'une langue à l'autre. D'une langue à l'autre, nous saisissons les nuances et les variations du réel sur la terre entière. Et nous saisissons qu'il n'y a pas de langue supérieure, de réel supérieur, que toutes les langues, je suis pas le premier à le dire, mais ça, Montaigne l'avait déjà dit, etc. Toutes les langues sont des langues du rapport avec le monde. Et on peut comprendre que quelque chose de nouveau se passe aujourd'hui. Ceci est signifié par le fait que dans l'histoire des expressions des peuples, quand les peuples s'exprimaient dans leur langue, ils s'exprimaient dans leur langue d'une manière monolingue. C'est-à-dire que quand je parlais ma langue, j'excluais toute espèce de possibilité de compréhension de la langue d'autrui et toute espèce de possibilité de contact ou d'accord ou de communion entre ma langue et la langue d'autrui. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'appelle s'exprimer dans sa langue d'une manière monolingue. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. La condition même des humanités fait que je m'exprime dans ma langue de manière multilingue. C'est-à-dire que quand j'écris dans ma langue, d'expression, cette langue est déjà multiple en moi. Déjà, elle est déjà multiple en moi. Et ensuite, j'écris en présence de toutes les langues du monde. Même si je ne les connais pas, même si je ne les parle pas, elles viennent à ma rencontre, elles influent sur moi de toutes les manières possibles. Et quand j'écris, elles influent sur mon écriture. Et par conséquent, la poésie, c'est aussi ce rythme de la parole qui se débloque, qui s'engouffre. Et qui peut s'alentir et trouver ses décadences lentes, et puis accélérer et trouver des rythmes. Et il me semble que cette destinée, ce parcours, cette errance, ce vagabondage de la rhétorique poétique, ça suit les mouvements de contact du monde. Ça suit les moments où le monde s'alentit et les moments où le monde s'exaspère.
Donc on peut dire qu'il y aurait une espèce d'appel d'air dont bénéficierait la poésie et qui serait fait de tous les airs, c'est-à-dire de toutes les langues.
Oui, à mon avis. Et il me semble que c'est beaucoup plus significatif des immédiatement significatif et profondément significatif des bouleversements du monde actuel que toutes les séries d'histoires que l'on peut accumuler pour raconter et ce point-ci, puis ce point-ci, puis ce point-là. Mmh. Il me semble que la poésie et la rhétorique de la poésie ont quelque chose de fondamental qui nous permet de nous rapprocher de la palpitation même du monde. Donc, et ça a toujours été la prétention, l'ambition et la vocation des poètes. Mmh. Mais on n'a pas voulu le leur accorder. C'est pour cela qu'il y a des poètes maudits.
Ouais. C'est-à-dire que les poètes ne connaissent pas les frontières.
Oui, absolument.
Ils sont absolument rebelles à toute idée d'identité nationale, par exemple.
Absolument. Je dirais que les poètes... connaissent et acceptent l'idée de la frontière, mais pas comme muraille ou obstacle, limite, ou isolement ou enfermement. La frontière comme jouissance du passage d'une saveur à une autre, de la saveur d'ici à la saveur de là. Et il me semble que Cette jouissance-là, c'est le nouveau sens qu'il nous faut donner au mot frontière. La frontière est nécessaire parce que je ne veux pas perdre la saveur que je quitte. Et je ne veux pas perdre la saveur vers laquelle je vais. Et leur accord n'est pas un anéantissement l'un dans l'autre. Et par conséquent, la notion de frontière a une grande beauté dans ce sens-là. Mais en aucun cas, la frontière ne doit être l'enfermement d'une saveur ou d'une beauté par rapport à une autre.
Votre champ d'exploration, Édouard Glissant, c'est la terre entière.
Absolument, absolument. Mais ça a toujours été le champ d'exploration des poètes. Mais aujourd'hui, ce champ d'exploration, nous savons que nous n'avons plus à l'explorer. Nous avons à le ressentir. Rimbaud, par exemple, avait senti le monde, mais il l'explorait encore, le bateau ivre. Ça, il l'explorait encore. Parce que le monde était encore inconnu, n'est-ce pas? Qu'est-ce que c'était un nègre? Qu'est-ce que c'était un indien? Qu'est-ce que c'était pour les gens, pour les Européens? C'était inconnu. Mais maintenant, nous le savons. Il ne faut pas faire semblant de croire que nous ne le savons pas. N'est-ce pas? Et les maladies de l'ignorance, comme le racisme, il ne faut pas faire semblant de croire qu'elles sont normales et qu'elles sont, c'est pas de notre faute, nous ne savons pas. Non, nous savons. Et c'est pourquoi la poésie devient tout de suite une arme de combat. Mmh. Un moyen d'ouvrir les sensibilités.
Mais dans cet espace élargi aux dimensions de la Terre entière, est-ce qu'il y a un horizon fabuleux, pour citer encore Rimbaud?
Oui, il y a... si nous considérons la Terre entière comme un élément fini, alors nous nous condamnons nous-mêmes. Il faut considérer la Terre entière comme un infini. Et c'est pour cela que je dis le tout monde. Le tout monde, c'est pas seulement le monde entier. C'est le monde tel qu'il sera demain et au moment où il va nous réunir tous. Et ça, nous savons, mais nous ne sommes pas encore réunis. Le tout monde, c'est la projection du monde tel qu'il va nous réunir tous. mais ce qui n'est pas encore fait. Et c'est ça notre horizon. Et cet horizon-là, il est infini. Nous avons toujours à le poursuivre. Et c'est pour ça que la poésie nous sert davantage dans ce domaine que les éléments de connaissance rationnelle et réaliste auxquels nous sommes habitués.
Le tout-monde, pour vous, Édouard Glissant, ce n'est pas seulement une idée en l'air, hein, puisqu'il y a 3 ans, vous avez créé l'Institut du tout-monde.
Oui. Et nous travaillons à cet institut, nous travaillons sur les bases que j'ai proposées, les bases d'une poétique de la relation, les bases d'une identité rhizome, d'une identité relation qui ne serait pas une identité à racine unique, une identité fixe, une identité qui tue autour d'elle. Et il me semble que cela intéresse tous les champs de l'activité. Nous avons en ce moment un séminaire à propos d'une phrase que j'ai proposée, « Rien n'est vrai, tout est vivant ». Et ce séminaire est alimenté, si je puis dire, par les développements de mathématiciens, de généticiens, de géographes, d'historiens, de poètes, d'artistes, etc. Et il me semble que c'est la nouvelle manière d'aborder la connaissance. Ne pas l'aborder dans les secteurs étroits des technicités qui se renferment sur elles-mêmes, mais l'aborder avec toutes les ouvertures possibles sur les autres disciplines de la connaissance, de même que nous ne parlons plus comme nous parlions avant, pour nous-mêmes. Nous parlons avec toutes les langues que nous ne connaissons pas et qui sont là et qui nous sollicitent.
Et ce que vous appelez la poésie du tout-monde, hein, puisque c'est le sous-titre de cette anthologie que vous publiez, « La terre, le feu, l'eau et les vents » chez Galade, une anthologie de la poésie du tout-monde, c'est-à-dire d'une poésie qui bénéficie de toutes ces possibilités multiples que vous évoquiez.
Oui, absolument. Et il y a une anecdote significative et intéressante à ce sujet. Quelqu'un qui m'interviewait ou avec qui je discutais, je ne me souviens plus, de cette anthologie me disait « La terre, le feu, l'eau et les vents, c'est un peu Bachelard, non, tout ça ?» Et je disais, je lui ai répondu, mais vous savez, la première chose que j'ai trouvée en faisant cette anthologie, c'est un poème maya qui dit « Arme-moi d'air, pour que je suis l'esprit de l'air, arme-moi de feu, je suis l'esprit du feu, arme-moi... » L'air, le feu, la terre et l'eau. Et c'est un poème maya du 16e siècle, 3 siècles avant Bachelard. Et par conséquent, c'est dans le tout monde. Ce n'est pas seulement... Et j'adore et Bachelard. Et je suis plein d'admiration pour la pensée de Bachelard.
Ouais, mais il y a une petite différence avec Bachelard, c'est que vous n'avez pas l'accent bourguignon. Hein.
Non, pas du tout.
En tout cas, ce que vous avez dit à l'instant montre que le tout monde, ça concerne pas seulement l'espace, ça concerne aussi le temps.
Le temps, oui, absolument. Je suis frappé de ce que le même Bachelard dit que l'eau est l'esprit de la terre. Et Héraclite, un poète philosophe présocratique dans les îles Ioniennes, en Grèce, dit « la terre est ensouchée dans l'eau ». Les deux disent la même chose à presque 2000 ans de distance. Et c'est cela qui constitue aussi l'appétit et l'intérêt du chaos dont je parle. Le chaos rapproche les distances et rapproche les temps. Et il me semble que quand nous aurons appris à faire la même chose pour le tout le monde, nous aurons franchi un grand espace. Nous aurons franchi une étendue et une profondeur de poésie.
Là, il y a ouverture du temps, ouverture de l'espace, mais aussi ouverture de ce genre qu'est la poésie, puisque dans le volume, on trouve aussi bien des pré-socratiques, comme vous venez de le dire, que des textes de Gilles Deleuze, qui est considéré comme philosophe plutôt que comme poète, de Lautréamont, de Patrick Chamoiseau.
Et mieux que ça, des textes de Malcolm X et de Mohamed Ali, parce que la poésie, c'est pas seulement les poèmes. Les poèmes sont l'illustration la plus vivante et la plus vivace de la poésie. La poésie, c'est surtout un rapport au monde, non pas une conception, mais une intuition du monde. Et quand Mohamed Ali dit, par exemple, qu'on veut l'envoyer faire la guerre au Vietnam, et qu'il dit, les Viet Cong, ils m'ont rien fait. Pourquoi j'irai faire la guerre au Viet Cong, au Vietnam? Il a une vision du monde, ce que les autres n'ont pas, n'est-ce pas? Il a une vision du rapport. D'une réalité, la sienne, à une autre réalité. Eh bien, cette vision du monde, c'est une poétique. C'est un élément de poésie.
Donc c'est ça qui qualifie à vos yeux la poésie?
Absolument. La poésie, c'est l'intuition des vérités et des non-vérités du monde. N'est-ce pas? Et la poésie, finalement, c'est l'intuition du vivant. C'est pourquoi, dans cette anthologie, chaque fois qu'il y a quelque chose qui est dit, quelle que soit l'époque et quel que soit le continent, qui montre une vision du monde au moment où la parole a été dite, eh bien, cette parole mérite d'être conservée en tant que signal de poésie.
Alors, les textes, il y en a pas mal, hein, il y en a 200, je crois.
Ah, je ne me souviens pas. Oui.
200 textes, peu importe que ce soit ou pas des poèmes, ce sont tous, comme vous venez de le dire, des textes qui expriment à la fois une vision du monde et aussi, et c'est aussi important, une conscience de l'autre.
Oui, absolument, absolument. Parce que le poète recherche l'autre. Et pourquoi? Parce que le poète recherche ce que les littératures du monde ont très souvent ignoré, la différence. Le poète cherche la différence parce qu'il sait que la différence n'est pas fondatrice d'enfermement et d'empêchement. Et il sait que, je dis que, qu'est-ce que c'est que la relation? La relation, c'est la quantité finie de toutes les différences du monde, sans qu'on en oublie la plus petite. C'est-à-dire qu'il faut reconnaître à chacun sa différence. Mais quand on reconnaît la différence, on ne s'éloigne pas. Au contraire, c'est ce qui permet les constitutions de liens en réseau. Un rhizome. Et il me semble que accumuler le même avec le même, il y a là une espèce de, on obtient un clone. C'est une activité clonique. Et accumuler les différences et les mettre en rapport les uns avec les autres, on obtient une relation. Et c'est cela que j'ai essayé de montrer dans les livres qui s'intitulent « Poétique de la relation ».
Mais là, il n'y a pas de hiérarchie dans la relation.
Ah, hein. Absolument. Ni dans les hommes, il n'y a pas de hiérarchie.
Ni chronologique.
Non. Non. Et il n'y a pas de genre. Parce que le genre, c'est une forme de commodité que l'on se dessine pour échapper à ce qu'il y a d'obscur, à ce qu'il y a d'opaque, à ce qu'il y a d'incertain, à ce qu'il y a de tremblant dans la fonction poétique. Et si on échappe à ça, on échappe aussi à la poésie. Parce que la poésie, est, comme le monde, la poésie tremble. Mmh. Et la poésie est incertaine. Mais cette incertitude est la meilleure des certitudes. Et c'est pourquoi je pense que il faut considérer que la poésie est aujourd'hui dans l'état où sont les humanités et dans l'état où est notre la planète Terre est l'une des formes les plus immédiates, les plus foudroyantes, les plus de la perception de ce monde, du contact avec lui et de la faculté de le lier à une autre sorte de relation qui est la relation entre les humanités, entre les humanités différentes.
Là, dans le livre, il y a des présences que certains peuvent trouver insolites. Hein. Par exemple, Charlie Chaplin.
Ah, mais sa définition de la beauté est tellement extraordinaire. Bon, on peut ne pas être d'accord avec cette définition, mais elle est tellement belle que je pense que on ne peut pas laisser. Et puis Charlie Chaplin, c'est un grand poète dans le cinéma qu'il a fait.
Brassens, c'est là aussi.
Une des qualités d'une anthologie de ce genre, c'est que je l'ai faite avec plusieurs, en partant de plusieurs éléments. D'abord, je l'ai faite avec beaucoup de hasard. Je crois au hasard. Ensuite, je l'ai faite en partant de beaucoup de proximité. Je crois aux proximités. Par exemple, les poèmes d'amis qui sont proches ou un poème que j'aime ou une chanson que j'aime ou une chanson qui me parle ou une chanson qui... Et l'univers de Brassens me parle beaucoup. Cela veut dire que chacun de nous peut faire une anthologie du tout monde, n'est-ce pas ? Et qui sera différente. Le seul intérêt du genre, c'est que le plus grand intérêt du genre, on pourra faire chacun une anthologie différente, mais ils auront toutes ceci de semblable, qu'elles seront toutes des anthologies du tout monde. C'est-à-dire qu'elles ne laisseront de côté rien de ce qui importe des sensibilités du monde. Et ça, mais on peut partir d'éléments différents. Quelqu'un peut partir d'un poète qu'il aime et puis à partir de là, aller vers tous les autres poètes. Parce qu'on s'aperçoit, quand on fait un travail de ce genre, que le hasard, en réalité, n'en est pas un. Parce que dans l'anthologie, une fois qu'avec l'aide d'amis qui ont fait des recherches pour moi, je l'ai réalisé à la manière dont j'entendais les réaliser, on s'aperçoit qu'il y a des par exemple que l'arbre, la notion d'arbre est universelle. Ce ne sont pas des notions abstraites qui sont universelles, n'est-ce pas, qui sont que la signification de l'arbre est universelle. Et par exemple, je dis que pour moi, si on me demande de dessiner un arbre, comme on dit dans les manuels de psychologie, il y a la racine pour ceux qui sont qui sera plus importante pour ceux qui sont assis réalistes, etc. Le tronc qui sera plus important pour ceux qui sont des personnes d'action, les feuilles qui sont plus pour ceux qui sont évaporés un peu poètes, etc. au mauvais sens du terme. Eh bien moi, si je me demande de dessiner un arbre, je dessine une forêt. Parce que je suis rhizomatique. On s'aperçoit qu'il y a beaucoup. Par exemple, je me suis aperçu que dans beaucoup de textes poétiques modernes, on trouve le mot Brésil d'une manière inattendue. Le sucre du mot Brésil au fond du marécage, écrit Aimé Césaire. Et on s'aperçoit que le Brésil a une présence dans l'inconscient collectif de beaucoup de personnes, sans doute parce que c'est à la fois un continent et un archipel, et que c'est un continent métis, et que c'est pour toutes sortes de raisons. Et jusqu'à au fait qu'ils sont des magiciens du football, et que le football est universel, etc., etc. Et donc, le hasard n'en est pas véritablement un. Il y a quelque chose là.
Il nous reste juste une minute, Édouard Clisson, pour mentionner l'autre livre, puisque j'avais annoncé deux livres au début de l'émission, 10 mai, Mémoire de la traite négrière, de l'esclavage et de leurs abolitions, que vous publiez également aux éditions Galade.
Oui, c'est un recueil de textes qui suivent à peu près le trajet historique de la constitution des traites négrières transatlantiques et des systèmes esclavagistes dans les Amériques, de la lutte de ces descendants d'Africains, des luttes dans les Amériques, des abolitions. D'abord de la traite, ensuite la traite négrière, ensuite des systèmes d'esclavage. Parce que quand on réunit tous ces textes, on s'aperçoit qu'ils structurent la mémoire et l'esprit et qu'ils permettent d'échapper aux outrances, les outrances des esclavagistes, n'est-ce pas ? Et ils permettent d'échapper au découragement. Peut-être des descendants des anciens esclaves. Et il donne de la force, il donne de l'énergie et il donne de la lucidité. Et je suis très content d'avoir fait ça.
Deux livres d'Édouard Clisson aux éditions Galade. La terre, le feu, l'eau et les vents, une anthologie de la poésie du tout monde, et 10 mai, mémoire de la traite négrière, de l'esclavage et de leurs abolitions. Du jour au lendemain, Sébastien Labarre, Anne Franchini, François Poirier, Alain Weinstein, bonsoir.
Cette émission a été diffusée pour la première fois le 9 juin 2010. Vous pouvez la réécouter durant 1000 jours et la télécharger pendant un an à la page des nuits sur le site franceculture.fr.
A string.